Vous, ouais, ça c'est aussi l'autre paradoxe. Église de Versoix, genevoise. Tout le monde parle, oui. Tout le monde parle français. Il y a, pardon, anglophone, ok. Qui est de l'église de Versoix, l'église libre de Versoix? Voilà, ça fait une bonne partie des gens, quand même, bah, pas mal, les trois quarts des personnes. Et puis quelques personnes qui visitent aussi, c'est le royaume de Dieu, c'est bien, hein, le royaume de Dieu, qui est plus large que l'église locale et c'est réjouissant. J'aimerais bien avoir des canapés comme ça dans les églises, je trouve que c'est une bonne idée, je prends note. Et. Alors voilà, je suis papa de aussi, hein, trois filles, 7, 10 et 11 ans. C'était difficile de s'arracher et d'arriver là. Qui a de la famille d'ailleurs? Qui a des enfants en bas âge ici? Alors j'aimerais vous féliciter spécialement. Je trouve que vous êtes incroyable. Je ne sais pas comment vous faites, mais bravo. Ça m'impressionne. Voilà, je pense que ça aide beaucoup. Ouais. Et puis, puis les autres aussi, bravo d'être là. Et on va avoir 50 minutes à peu près, un peu moins, pour parcourir ce deuxième chapitre. Vous avez déjà vu le premier chapitre, qui était. Vous rappelez le titre du dernier chapitre? Moi, je dois toujours regarder les titres parce que je ne me rappelle plus. Créé avec une destinée. Vous avez tous été créés avec une destinée. Et puis, le deuxième chapitre, c'est de réaliser que vous êtes créés sur Terre. Et sur Terre, pour vivre sur Terre, vous vivez on vit dans un même monde, mais ce même monde, on va le découvrir, il a deux sphères complètement différentes. Et c'est de ça qu'il s'agit, un monde, deux sphères. Je vais m'aider un peu du support. Vous trouvez justement ce chapitre à la page 20, ou est-ce que c'est le. C'est le, ouais, c'est le, ouais, c'est page 20. Donc, vous trouvez ce chapitre, un monde, deux sphères. Donc, pour commencer, j'aimerais vous partager un verset de Paul que je trouve pertinent. C'est Colossiens 3, 1, 2. Il est mentionné aussi dans le support de cours. Il est précisé que, je lis, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Les choses d'en haut. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Et non à celles qui sont sur la terre. Donc, Paul décrit deux réalités, celles d'en haut et celles qui sont sur la terre. Et c'est de ça qu'il s'agit dans ce chapitre, découvrir un peu ces deux réalités qui sont là. Ces deux réalités, mais qui sont différentes. Il y en a d'en haut et il y en a d'en bas, sur terre. Il y a la première réalité, celle qui est accessible par les cinq sens et par la perception, grâce à la vue, essentiellement. C'est tout ce qui est le visible, mais c'est les cinq sens en général. Donc, c'est aussi le toucher, c'est l'odorat, c'est le goût. C'est l'ouïe. Et c'est cette sphère qu'on peut qualifier de sphère naturelle, la sphère du visible. Et c'est l'environnement d'en bas, dirait Paul. Et puis, il y a également la sphère dite invisible. Alors, qu'en est-il de la sphère invisible? Les deux sont bien réelles, la sphère visible et la sphère invisible. Mais elles sont distinctes et elles opèrent pourtant en interaction. Et c'est ce qu'on voit justement quand on regarde l'histoire de Job. C'est une histoire passionnante. L'histoire de Job, comme vous le savez sûrement, ben, s'ouvre dans le premier chapitre sur une discussion entre Satan et Dieu. Et dans cette discussion, il y a une question. Et cette question, c'est à Job d'y répondre. Seulement, ce qui est particulier, c'est que Job, il n'a pas connaissance de cette question. Je ne sais pas si vous avez conscience que des fois, vous êtes des personnes qui allez répondre à certaines questions qui sont posées au ciel, dans ce qu'on ne voit pas. C'est particulier quand même. Et ça a été le cas de Job. Chapitre 2, on voit que il perd tous ses biens, donc tout son revenu, à cause de pillage. Mais plus que ça, il va perdre aussi la santé, une maladie. Il va perdre aussi la paix dans sa maison parce que le couple est en difficulté. Il y a vraiment des relations tendues. Et puis, il perd aussi ses enfants suite à des catastrophes naturelles. Et c'est vraiment le ciel lui tombe sur la tête, si on peut dire ainsi. Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir une série de circonstances dramatiques où vous pouvez lister, disons plus ou moins dramatiques, mais on pourrait parler simplement de séries. Dans une journée, on se dit, mais ça, il n'y a rien qui va droit. Alors certains diraient, Continuez, c'est dur, c'est normal. Continuez, ça veut dire que si vous êtes sur le bon chemin pour la croissance. Hein. Et c'est vrai que pour Job, ça a été difficile et c'était spécialement dramatique, ces difficultés. Et on découvre au chapitre 1, justement, que la cause de ces problèmes qui sont mesurables, qui sont dans la sphère naturelle, qui sont dans la sphère visible, ont une cause dans le surnaturel, dans l'invisible, dans le ciel. Et je vous lis dans Job 1, versets 6 à 12. Un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel. Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. Et là, il dit, plus loin, je lis, « Mais porte donc la main sur les biens de Job et sur les siens, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Et c'est ce que l'accusateur, Satan, fait. Et plus loin, ça continue, et Satan revient, « Mais porte donc la main sur son corps, et l'on verra s'il ne te maudit pas en face. » Et c'est là qu'il y a la douloureuse maladie qui arrive. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a une interaction. Ces deux mondes, la sphère de l'invisible et la sphère du visible, finalement, sont en interaction. S'ils sont distincts, ils interagissent. Cette discussion qu'il y avait au ciel a eu un impact sur la terre, et Job l'a bien mesuré de manière dramatique. On pourrait parler, si on veut donner une image, de l'image dans l'image spirituelle. Ici, on voit justement cette technologie qui est maintenant un peu vieillie, hein, PIP, ils appellent ça, je crois, Picture in Picture. Donc, on peut même temps regarder un aventurier ici qui mène une aventure et en même temps on regarde le score si Barcelone va gagner le match ou pas, etc. Donc on peut en même temps avoir un regard sur un récit d'aventure et en même temps on a le regard sur un match de football. Donc c'est cette possibilité de voir deux réalités en même temps, autant l'émission de cet aventurier que le match sont deux réalités qui sont en train de se dérouler. Et puis, mais sur le même écran, on arrive à avoir deux regards sur ces réalités. Et c'est ce qu'on est invité à vivre en tant que chrétien, d'avoir toujours dans notre vie un regard sur ces deux réalités en même temps. On verra après si on est tellement habitué à avoir ce double regard sur la réalité. C'est important de garder plusieurs choses en vue. On peut se figurer aussi Job. Est-ce qu'il avait ces deux perspectives, hein? C'est très important. Et développer une sensibilité envers ce monde spirituel, c'est très important. Et on aurait pu penser que c'était juste, par exemple, si on a regard que sur ce qui est mesurable et visible, on aurait pu penser que c'était des malheurs qui s'enchaînent par hasard, quoi, une mauvaise journée, qu'alors en fait il y a une autre réalité, une autre perspective qu'on peut saisir si on a aussi l'image du monde spirituel. Ce n'est pas des enchaînements malheureux. Il y a une activité dans le monde spirituel qui a des conséquences tangibles dans le monde matériel. Je me rappelle, par exemple, pour donner un témoignage de l'arrivée à Gimel, pour dire, en fait, moi, je ne suis pas le monstre gars qui vraiment a cette perspective-là tout le temps dans ma vie. Hein. Je serais plutôt à regarder du football ou à la télévision. Ça, j'aime bien. Les aventures aussi. J'en fais occasionnellement moi-même. J'aime bien le... J'avais fait les 4 mousquetaires, où je fais pas mal de sport. Et puis, effectivement, j'aime bien bouger, quoi. Mais effectivement, il y a pas mal de situations qui la vie m'apprend ça aussi, à grandir dans la compréhension du monde spirituel. Arrivé à Gimel, ma femme me racontait puis qu'elle roulait derrière une voiture. C'était un grand jour de beau, très clair, ce qui fait qu'elle voyait bien. Dans une petite descente avant Gimel, elle voyait bien au travers du pare-brise la voiture en face, la personne qui conduisait, elle voyait ses deux mains sur le volant. Puis à un moment donné, elle a vu que la personne tenait son volant comme ça. Puis alors, ma femme, c'est pas quelqu'un qui plane très haut, hein, elle est spirituelle, mais elle est une femme, quoi. Elle nous aide des fois à être bien dans la réalité aussi. Et puis elle, par contre, justement, elle a vu dans la réalité quelqu'un qui tient son volant comme ça. Je ne sais pas si ça attire votre attention, mais elle, ça a attiré son attention. Alors, sa première action, c'était de prier en langue. Et puis, dès qu'elle a commencé à prier en langue, la personne a baissé sa vitre, a passé la main, et puis elle a fait ce signe comme ça, jusqu'au prochain carrefour qui descend sur Essertine, ce qui représente à peu près 500-600 mètres, ce cas-ci. Après, elle a tourné à droite, et elle a klaxonné avant de tourner. Il y avait quelqu'un sur le trottoir à droite qui marchait. Et puis, bien sûr, cette personne, Anne-Laure, l'a vu sursauter quand la personne a klaxonné. Puis, comme Anne-Laure connaissait justement cette personne, elle lui demandait: mais est-ce que tu connaissais cette personne? Non, pas du tout, ça m'a surpris, etc. C'était une manifestation dans le naturel de quelque chose de spirituel. Et on sait qu'au pied du Jura, il y a pas mal de gens qui trafiquent. Il y a même, voilà, il paraît qu'il y a un groupe occulte qui prie, etc. On peut imaginer tout ce qu'ils peuvent pratiquer. Et effectivement, d'avoir ce regard sur la réalité, en se disant: cette personne qui conduit comme ça, il y a quelque chose qui est d'origine spirituelle, et de pouvoir prier, de pouvoir vraiment avoir un regard spirituel là-dessus. Bien sûr qu'Anne-Laure, elle me disait, mais je disais: alors, comment tu vis ça? Ben, c'est vrai que je pourrais me laisser effrayer. Je pense que le but de... On vient d'arriver dans le ministère pastoral, on vient de débarquer, quoi. C'est une manière pour l'ennemi de dire: vous êtes sur mon territoire et je suis puissant, et je vais pas vous laisser, je vais vous rendre la vie difficile. Et puis je vais vous-même vous rappeler tous les événements difficiles de cette communauté. Et puis je dis: ben alors, comment tu vois ça? Il dit: ben non, on a la victoire en Jésus-Christ. Et puis voilà, Dieu est souverain, et puis il nous protège, il nous garde. Par contre, c'est une réalité qui est là. Et ce genre d'anecdote le rappelle, ou en tout cas me l'a rappelé assez vigoureusement, et après d'autres circonstances aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça, c'est autre chose, hein. On le verra aussi après. Alors voilà ce témoignage qui dit bien cette réalité. Donc on a ce monde et deux sphères qu'on peut... Ah oui, il y avait une animation. Alors, je vais tous les mettre, parce que ces animations, c'est bien joli, mais des fois... Alors, la sphère spirituelle, déjà, c'est ce que Paul appelle les lieux célestes. Il le mentionne 5 fois en lisant l'épître de Paul aux Éphésiens. La sphère spirituelle. C'est comme ça que lui, il appelle ça. Ou les lieux célestes, pardon. Cette sphère spirituelle, comme c'est mentionné dans le cours, si on prend les Écritures, Paul en parle comme ces lieux célestes. Et c'est invisible. Et puis, il y a la sphère physique, perçue par les cinq sens, et ce qui est mesurable aussi. Donc les deux sont complètement réels. Ce qui se passe dans l'une peut affecter l'autre. Il y a cette idée d'interaction. Maintenant, si on regarde la relation entre les deux sphères, il y a l'histoire de Daniel qui, je trouve très intéressante, qui nous rappelle comment il y a une interaction de ces deux sphères et vice-versa. Alors c'est l'histoire de Daniel que vous vous rappelez peut-être. Daniel, quelqu'un qui aime Dieu, mais qui a une sensibilité prophétique, et qui se met à prier, jeûner, pendant 3 semaines, pour demander quel est le projet de Dieu pour Israël. Et là, aucune réponse, rien ne se passe dans le visible, rien ne se passe. Rien. Je ne sais pas si vous avez déjà prié, jeûné pendant 3 semaines, ou demandé à Dieu, chaque jour, régulièrement quelque chose, peut-être même plus longtemps, et apparemment il se passe rien. Mais est-ce que ça veut dire qu'il se passe rien, enfin de manière mesurable, est-ce qu'il se passe rien dans le monde spirituel? Là, je peux vous dire sa bataille. Et c'est cette perspective-là que Daniel nous permet de comprendre. Quand on lit Daniel 10, la fin de ce passage des versets 2 à 13, on voit que l'explication de ce qui se passe dans le monde spirituel, c'est que dès le premier jour où Daniel a appliqué son cœur à comprendre et à s'humilier devant Dieu, il le dit même à la première personne, hein, dès le premier jour où tu, à la deuxième personne, dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, ta prière a été entendue dès le premier jour. Et je suis venu vers toi en réponse à tes paroles. Mais le chef du royaume de Perse, il s'agit d'entité spirituelle, on le comprend après, s'est opposé à moi durant 21 jours. Alors Michel, l'un des principaux chefs, qui est dans l'armée de Dieu, hein, est venu à mon aide et je suis resté là auprès des rois de Perse. Donc il y a une situation où il y a un combat spirituel que déclenche la prière de Daniel aussi, une prière qui a été écoutée et qui déclenche donc l'envoi d'un ange. Le combat entre ces deux princes dans le monde spirituel. Et on sait que dans l'histoire aussi, après le royaume de Perse a succédé le royaume de la Grèce et après l'Empire romain, hein, il y a eu aussi des impacts au niveau de l'histoire, hein, assez intéressantes. Et tous ces empires qui se succèdent, ces événements qu'on voit dans le monde aussi, On peut penser maintenant à ce qui se passe en Corée du Nord. On sait qu'il y a tout un mouvement de prière, par exemple, qui prie pour la Corée actuellement. Mais pas seulement pour la Corée, il y a aussi d'autres pays et beaucoup de mouvements de prière. On se rappelle de la chute du mur aussi de Berlin et tout ce qui s'est passé là. On sait que c'est aussi le fruit de la prière. On peut penser aussi à cela pour nos familles, pour nos églises. Il y a aussi des prières qui sont élevées pour prier, par exemple actuellement, pour votre pasteur ou pour d'autres situations. Waouh, je me dis, ça vaut la peine de persévérer dans la prière et puis de chercher la face de Dieu aussi, dans dire, mais Seigneur, comment prier dans cette situation-là? Quelle est ta volonté? Donc on vit dans un seul monde, mais ce monde comprend deux sphères et nos vies se passent dans les deux. Et on doit apprendre à poser des questions à Dieu et poser des questions aussi assez précises. Ça, c'est aussi une discipline dans laquelle j'apprends à côté de la discipline de regarder les deux écrans à la fois, de ne pas me laisser embrigader seulement dans le visible où je pourrais vite, je vous parlerai après, quand on parlera de la forteresse de la peur et de l'incrédulité, je trouve très intéressant de mettre les deux sujets en parallèle. Parce que si on ne vit pas avec ces deux écrans, on a vite fait d'être piégé dans le monde du visible, dans les contingences de nos réalités, et on peut perdre pied assez facilement. Mais la réalité aussi, enfin, la discipline dans laquelle j'apprends à grandir, c'est apprendre à poser des questions précises. Alors là, ils en listent un certain nombre, page 22 et 23, très intéressantes. Est-ce que cette situation difficile se produit par hasard? Tout ça, c'est des questions à poser à Dieu, hein, dans un dialogue avec lui, un peu comme une partie de ping-pong, vous savez, hein. Seigneur, est-ce que cette réalité arrive par hasard ou est-ce qu'il y a une réalité spirituelle derrière? Punk, on attend la réponse de Dieu, on dialogue. Est-ce que ma mauvaise humeur vient sans raison apparente? Est-ce que vous avez déjà arrivé d'être de mauvaise humeur toute une journée sans vous demander s'il n'y a pas une cause? Il peut y avoir des causes naturelles à la mauvaise humeur aussi, hein? Bien sûr. Je ne suis pas en train de dire le contraire, mais il s'agit d'avoir un discernement spirituel ici. Est-ce que cette mauvaise humeur n'a pas une autre raison? Est-ce que les tensions dans notre couple sont une fatalité? Est-ce que le sentiment de lourdeur que nous ressentons durant le culte à l'église est dû simplement au mauvais temps? Pourquoi notre église est-elle marquée par un esprit, par exemple, de critique ou de rébellion, de scission, d'avarice, depuis des générations? Est-ce que le manque de joie ou de motivation que je ressens est simplement dû à ma personnalité, etc. On peut continuer avec ces. Alors, à question précise, réponse précise. Si on a des questions vagues aussi, ben on aura des réponses peut-être vagues, ou je sais pas. Est-ce qu'il y a un problème? On demande à Dieu. Oui, ben, voilà, ben ça nous fait pas grandement avancer. Il faut poser des questions plus précises. Alors, après, voilà donc déjà un petit peu une discipline qu'on peut se donner, c'est dire ben, posons des questions plus précises, apprenons à avoir cette double perspective. Maintenant, on va regarder dans le temps qui suit comment Jésus, enfin que finalement Jésus, les apôtres, nous aussi, on est appelés à vivre dans ces deux sphères. On va voir ces parties rapidement pour après entrer sur la clé pour pouvoir vivre pleinement dans ces deux sphères, qui est la vie du Saint-Esprit. Et on aura une pause à 20h20 à peu près. Vous trouverez toutes ces données donc aux pages 23, 24 et 25. Et puis après, j'irai plus longuement sur la page 26. Je vous dis ça aussi parce qu'il y a des choses qu'on survole, et là on va plutôt survoler les prochaines pages parce que c'est des matériaux bibliques qui sont connus ou qu'on est invité à reparcourir en regardant mais comment Jésus, lui, a vécu le monde spirituel, comment les apôtres l'ont vécu, comment nous-mêmes on peut le vivre en tant que disciples, comme les disciples ont été envoyés aussi. Alors, Jésus déjà. Jésus, c'est intéressant de voir des passages des fois qui sont plus ou moins commentés dans la Bible, la parole, toute la parole. Eh bien, c'est. Le ministère qu'exerçait Jésus, c'est la délivrance, par exemple. Ministère de délivrance, voilà. Il y a tout un article, d'ailleurs, dans le journal Vivre de l'AFRE, de la fédération auquel j'appartiens. Je trouve intéressant que maintenant, il y a des articles qui sont plus publiés, qui parlent du ministère de la délivrance. Formons-nous, par exemple. Oh, quelques années. Ouh là là, mais non. On prie notre Père, hein, délivre-nous du mal. Mais après, ministère de délivrance, il ne faut quand même pas pousser. Hein. Vous voyez, si on a un peu un background rationaliste, humaniste, hein, dont l'Église est des fois bien influencée, hein. Mais la parole de Dieu dit que vous ferez les mêmes choses que moi et Jésus a délivré. Voyez. Oui, mais je suis chrétien, donc je n'ai pas besoin de délivrance, voyez. C'est des questions. Moi, j'essaie de prendre des fois la parole avec simplicité de cœur et foi et de me dire, bon, là, c'est écrit, je reviens à la parole toujours. revenir à la parole. Je pense que c'est puissant et je pense qu'on vit une saison passionnante parce que les gens reviennent à la parole avec simplicité de cœur et foi. Alors effectivement, Jésus, il a vécu le ministère de délivrance, il a pris autorité aussi sur les éléments de la nature, il a parlé sévèrement aussi aux éléments de la nature. Il a aussi jeûné pendant 40 jours et là il a vécu les tentations dans le désert où il était tenté. Et là il y a eu une confrontation spirituelle avec Satan qui désirait que Jésus l'adore au final. Et puis on réalise qu'il y a une guerre, il y a une bataille qui se fait. Et Paul reprend ça en disant qu'on n'a pas à lutter contre les êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde, des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Voilà, c'est soit dit. Donc, on n'attaque pas les personnes, mais on attaque l'esprit qui est derrière et on discerne l'esprit qui est des fois agi derrière les personnes. Et ça change aussi notre perspective dans nos relations qui peuvent être des fois conflictuelles ou difficiles. Et Jésus dit d'ailleurs très clairement, Jean 10:10, « Moi, je suis venu afin que les hommes aient la vie, une vie abondante. » Il dit ça dans quel contexte? Ben, il dit ça en disant qu'il y a aussi le voleur qui vient pour voler, pour tuer et pour détruire. Voilà, combat. Il y a deux mondes. Il y a celui de l'ennemi, du voleur qui vient pour détruire, et puis moi je viens pour que vous ayez la vie en abondance. Après, il y a aussi les chrétiens. On devrait vivre en étant conscient de la sphère spirituelle. Alors ça veut dire que vivre avec discernement, mais sans crainte. Parce que des fois il y a de la crainte aussi par rapport à ce monde-là, comme je le disais, qui nous amène à le nier aussi. Et c'est ce que Jésus dit quand il dit qu'on est appelé à continuer le ministère que lui a accompli, et en suivant l'exemple de Jésus. On n'a pas de crainte à avoir pour trois raisons qui sont mentionnées. La première en bas de page 23, c'est qu'on a été délivré de la domination des ténèbres. C'est ce qui est mentionné dans Colossiens. On a été délivré de cette domination. Et ensuite, il y a l'idée aussi qu'on a cette puissance aussi. Parce que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. C'est la référence de 1 Jean 4:4. Et puis troisième chose qui fait qu'on n'a pas à être dans la crainte, c'est qu'on voit qu'en Christ, hein, dans cette vie en Christ, cette vie unie à Christ, on est, comme Paul le dit, assis à la droite de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, assis à la droite de Dieu? Waouh. Moi, on ne m'a jamais dit que j'étais assis à la droite de Dieu. Moi, on m'a dit que j'étais le sarment uni au cèpe, vous savez. Mais on ne m'avait pas expliqué qu'il y avait des conséquences à ça. Dans la vie unie à Christ, c'est qu'il y a vraiment cette notion d'être assis à la droite de Dieu, unie à Christ. C'est la notion d'autorité, c'est que nous avons autorité. Et c'est ce que vous verrez aussi dans la prochaine session, au chapitre 3, ça va être approfondi. Ça veut dire cette autorité en particulier, même les démons sont soumis à vous. Voilà, c'est d'ailleurs la première surprise des disciples quand ils reviennent. Il y a des guérisons, les démons nous sont soumis, waouh, incroyable. Et puis voilà, c'est les premiers disciples qui modélisent aussi finalement ce que nous, on a aussi comme autorité. Voilà, donc pas de crainte à avoir par rapport à ça. Donc c'est pour ça que quand ma femme m'a raconté qu'il y avait un groupe occulte, que... Pas un groupe occulte, hein, les croyants du dimanche matin, mais je veux dire, un groupe occulte à Gimel. Moi, je pensais qu'il y avait qu'un groupe occulte dimanche matin à Gimel, mais après, je découvre qu'il y a un groupe occulte aussi. Alors, voilà, il y a une guerre, il y a un combat, c'est vrai. Il y a le Saint-Esprit, et puis il y a les démons qui cherchent à brouiller aussi au niveau de la communication. Et voilà, c'est des réalités. C'est des réalités où il faut faire un certain deuil aussi. Moi, je pense que c'est aussi une œuvre que je pense qu'il faut aussi rappeler. Que c'est pas marqué là, mais je le dis aussi, c'est qu'il y a des fois une forme d'idéalisme, une espèce de je sais pas, une espèce de romantisme chrétien, qui font aussi un peu de savoir démonter des fois en disant non, mais réveillez-vous quoi. Enfin, en tout cas, la réalité nous réveille quand on est dans le terrain de où Dieu veut nous mettre. Voilà. Ok. Alors, justement, le point E, la page 24 dit que la pensée occidentale résiste à la vision biblique du monde. C'est vrai. On peut parler de l'humanisme. J'ai shooté celui-là. Donc, ça, on a vu. La question de l'humanisme et du rationalisme. C'est résumer un petit peu la pensée dominante qu'il y a en Europe, en Occident. Et c'est bien de savoir aussi combien c'est présent et combien ça peut influencer l'Église et des fois diminuer la puissance de l'Église et la force de l'Église. L'humanisme, il a tendance à nier Dieu. Et puis le rationalisme a tendance à dire je pense donc je suis. Donc toute réalité est compréhensible sur la base de ce que j'arrive à penser. Comme je ne peux pas penser le monde spirituel, ben ça n'existe pas. Voilà. Vous allez en Afrique, c'est tout l'inverse. Je suis allé au Bénin, au Gabon, donner le cours, c'est passionnant. Alors là, j'ai vite sauté, là. Là, j'ai sauté. Eux, alors, ils me parlent de vaudou, de trucs incroyables. Moi, je me disais, mais comment c'est possible? Alors, il est pasteur, il m'a l'air sain de corps et d'esprit. Ouais, c'est bon. Donc, ce qu'il me dit, c'est vrai, mais j'avais de la peine à me dire, mais c'est possible que ça arrive, ça? Ben oui, ben oui. Et en Occident, c'est un peu le contraire. C'est qu'on a... Et c'est en train de changer. Je pense que c'est en train de changer. Je pense qu'on revient dans un animisme, on revient. On a quitté le rationalisme, on est dans le postmodernisme maintenant, donc on est en train de toucher aussi, même ce chapitre-là est en train d'évoluer. Je pense qu'on est maintenant beaucoup de plus dans l'émotionnalité que dans la raison, et que ça ouvre la place à l'animisme, à des pratiques spirituelles, toute pratique finalement spirituelle, mais sans esprit critique là. C'est-à-dire que c'est vraiment relativisme absolu, tout est bon, quoi. Du moment que je peux être guéri, bon, bah, c'est bon, voilà. Mais c'est quel esprit qui agit? Il s'appelle comment? Juste pour savoir, parce que tu vois, t'as un vu qu'un esprit qui vient de guérir, mais il s'appelle comment? Qu'est-ce qu'il fait? Juste, trouve intéressant quand même. Parce que moi, je connais le Saint-Esprit, je sais qu'il agit sainement, puis je l'invoque. Là, il y a un autre esprit, mais c'est qui? C'est quoi? C'est voilà. Là, on est en train de virer aussi en Occident. Mais c'est vrai qu'il y a toujours de ce rationalisme et cet humanisme qui fait que des fois, quand on parle du monde spirituel, il y a les gens qui soit prennent peur, soit se disent il est fou, etc. Et là, ça demande un petit peu d'apprendre à communiquer finalement, à trouver la bonne manière de bonne approche pour sensibiliser la personne aux réalités du monde spirituel. Mais imaginez une église ou une communauté où on a une compréhension de ces deux sphères de telle manière que personne ne garde une rancune envers quelqu'un d'autre, parce que justement on se dit, mais si je pardonne pas, il y a des enjeux spirituels. Imaginez une église où on s'écoute les uns les autres, y compris sa femme, parce qu'on sait que ça peut générer un problème dans le naturel, mais aussi dans le surnaturel, parce que ça crée de la division. Vous voyez, il y a ces doubles liens. Hein, on s'écoute les uns les autres parce qu'on sait que si on s'écoute mal, l'ennemi vient diviser. Imaginez aussi que on arrive à ne pas enterrer les dons spirituels que Dieu donne. C'est tout pour les mettre en pratique dans le naturel et puis qu'on puisse vivre une vie surnaturelle de manière naturelle. Toutes ces questions-là, finalement, dans l'Église, sont des enjeux, je pense, assez réels qui sont liés des fois à qui sont des fois difficiles à cause de notre un côté rationaliste, justement, ou humaniste, qui fait que des fois, quand on parle des dons spirituels, ben c'est pas toujours évident, quoi. Faire l'ordre du jour d'une assemblée d'église, ça va, mais parler des dons spirituels, c'est des fois un peu plus difficile, quoi. Donc là, il faut être vigilant là-dessus aussi, et puis s'enseigner, s'encourager. Voilà. Alors, si jamais vous vous dites, est-ce que je suis rationaliste ou un peu humaniste dans ma manière de penser? Est-ce que j'ai une manière de penser qui s'oppose à la vérité? Vous pouvez vous amuser à cocher à la page 24, colonne de droite, il y a une dizaine de questions. Et puis, ça, c'est assez intéressant de savoir. Ou de quel, si vous n'êtes pas plus concerné que vous ne le pensez par ces questions-là. Moi, par exemple, première question, je peux dire que j'aime bien regarder les choses de manière logique. J'ai de la peine à accepter les choses qui ne sont pas démontrées ou prouvées ou qui me semblent illogiques. Bah, c'est quelque chose que j'apprends encore à démonter maintenant. Voilà, donc avant d'être pasteur, j'ai fait le polytechnique. J'aime bien les maths, j'aime bien ce qui est logique. Et puis peut-être que voilà, et puis du coup, quand t'as 20 ans, on m'a dit, tu sais, il n'y a pas que Dieu, il n'y a pas que Jésus, il y a aussi le Saint-Esprit. Je venais de l'église protestante, le gars il m'a fait peur, quoi. Je dis, mais il est fou, enfin, non, pas dire qu'il est fou, non, c'est faux, j'ai pas pensé qu'il était fou, mais ce que j'ai pensé profondément, c'est je ne comprends pas, je peux pas contrôler, et franchement, ça me faisait peur, quoi. Et ce qui s'est passé, c'est que comme je réalisais bien que. Dieu et Jésus, c'était une trinité à deux personnes, puis qu'en ayant fait des maths un petit peu poussées, je savais que deux, ça fait pas trois. J'ai quand même Dieu m'a quand même utilisé qui j'étais pour m'aider à cheminer. Et c'est vrai que Dieu a de l'humour aussi, vraiment, mais un humour qui est à propos, je dirais. Et l'autre situation, comme souvent, on le verra après, c'est la souffrance m'a aussi ouvert à la vie de l'esprit. Parce que je voyais bien que Dieu m'appelait à être pleinement Maxime, mais que j'arrivais pas à être pleinement ce Maxime tant que j'acceptais pas un salut qui dépend pas que de moi, mais qui est vraiment le salut que Dieu veut me donner et qui est Dieu en moi aussi. Et je comprenais bien que ce Saint-Esprit était une clé, mais j'en avais peur. Comment on fait dans ces cas-là? Eh ben, je suis allé dans une rencontre au Landron, c'est l'âge de la pierre. Et puis, il y avait pas des moindres orateurs, c'était Jean-Claude Chablot. Et puis, il a donné un enseignement qui a explosé toute ma pensée occidentale, ou qui a commencé à la démolir, dans ce qu'elle avait, bien sûr, de négatif, hein, parce qu'il y a des bonnes choses à garder. Il a dit, voyez, relax, Max, Dieu est là, déjà. Alors, ça m'a parlé. Il a dit, l'Esprit Saint, il faut le demander, et puis il vous est donné. Mais pour ça, il faut quand même le demander. Alors moi, je me suis dit, bon, ben, j'en ai marre de tous ces gens qui tombent devant et qui courent tous en masse. Je serai le premier devant, puis je vais m'asseoir tout de suite, et puis je devais demander. Et puis après, parce que vous voyez, c'était la bénédiction de Toronto à l'époque. Chaque époque a un peu ses défis, des fois. Et puis après, je me disais, oui, mais j'ai pas la foi pour demander ça. J'y crois pas en fait. Et puis il a cité, il a dit oui, mais vous savez, si vous manquez de foi, vous pouvez demander à Dieu la foi. Alors demande la foi aussi. Et puis après, il a dit aussi un quatrième point qui est essentiel, il a dit il faut avoir soif. Mais là j'avais soif, c'était bon. Vous savez, quand on souffre, on a soif souvent. Alors c'était quatre points. Et puis alors dès qu'il a même pas le temps de dire l'appel, moi j'étais déjà devant assis, prêt à recevoir. Comme ça, c'était bon. Et puis, j'ai vécu cette bénédiction du Saint-Esprit. Et puis, c'est vrai que ça c'est venu à bout de mon rationalisme. Et puis, ça continue actuellement dans d'autres domaines. Et voilà, c'est un processus. Alors voilà, c'est important de comprendre que le rationalisme et l'humanisme, finalement, c'est pas que dans le monde. Des fois, c'est aussi dans l'Église et c'est dans nos vies. Et que c'est un point important pour pouvoir vivre vraiment dans cette discipline de voir, d'apprendre à voir sa vie dans les deux sphères à la fois et de prier Dieu avec des prières qui sont un peu précises aussi. Et on vient sur la page 25 avec la clé pour vivre simultanément dans les deux sphères qui est cette question du Saint-Esprit. Parce que c'est vrai que comme c'est mentionné ici, par le Saint-Esprit, nous pouvons vivre dans les deux sphères en même temps. Alors, comment ça se passe? Eh bien, comme je l'ai témoigné avant, il y a cette notion d'aspirer à être rempli de l'esprit. Il y a pour cela cette importance de demander et de recevoir. Ce besoin aussi de faire face aux peurs des fois qui peuvent nous habiter par rapport à la vie du Saint-Esprit. Et puis de demander à Dieu son aide aussi, de demander la foi. Alors déjà, pourquoi le Saint-Esprit est important pour vivre dans ces deux sphères à la fois, hein? En quoi le Saint-Esprit est une clé? On va le voir ensemble. Alors déjà, la puissance du Saint-Esprit, elle est indispensable et c'est un commandement biblique parce que sans la puissance du Saint-Esprit, on est incapable de suivre pleinement Jésus-Christ. Voilà, c'est dit. Toute illusion est explosée. S'il y en a qui se disaient qu'on peut suivre Jésus-Christ sans le Saint-Esprit, et eh ben voilà, c'est pas biblique. On a besoin de lui. Et puis il y a aussi, donc c'est nécessaire pour l'obéissance finalement à Dieu. C'est nécessaire pour triompher de Satan et c'est nécessaire pour accomplir la mission que Jésus nous donne. C'est donc un commandement qui est repris par Paul dans le passage un des plus connus, Éphésiens 5, 18, qui dit: ne vous enivrez pas de vin, cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir de l'esprit. Laissez-vous constamment remplir de l'esprit. Littéralement, ce serait soyez toujours à nouveau rempli de l'esprit. Soyez constamment et toujours à nouveau rempli de l'esprit. C'est un présent continu, c'est vraiment tout le temps et à nouveau et rempli de l'esprit. C'est un commandement. Soyez. Voilà. Donc c'est un commandement parce que c'est indispensable pour notre vie de foi.
Donc on devrait toujours vivre dans la plénitude du Saint-Esprit et on devrait être constamment ouvert à être rempli à nouveau de l'Esprit Saint. Cette question de remplir à nouveau, il y a cette compréhension déjà de à la conversion, on est déclaré juste, on est sauvé par grâce, par le moyen de la foi, en l'œuvre du Christ. Et à ce moment-là, l'Esprit Saint vient habiter en nous et c'est ce qu'on appelle aussi la régénération. En même temps, donc justifié, régénéré si on veut, mais après il y a toute la marche chrétienne, la sanctification, et là c'est important d'être rempli à nouveau du Saint-Esprit, d'être rafraîchi, d'être purifié, d'être renouvelé, d'être, et ça c'est tout un mouvement que le Saint-Esprit fait dans nos vies et veut continuer à faire dans nos vies. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de Pierre. Moi j'ai trouvé remarquable en relisant le cours, justement je me rappelais pas, Pierre il a vécu sa Pentecôte, d'accord, mais après à deux, au moins à deux reprises, il a à nouveau été rempli de l'Esprit ou reçu une onction spéciale dont il avait besoin pour sa mission. Et c'est la mention qui est faite dans Actes 4:8. Alors Pierre, rempli de l'Esprit Saint, leur répondit, dirigeant de la nation, responsable du peuple, rempli de l'Esprit Saint. Actes 4:31, tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc c'est aussi des équipements spéciaux, une onction que l'Esprit nous donne pour ce qu'on a à accomplir. Donc voilà. L'Esprit Saint nous permet après, quand on est rempli, de pouvoir de manière surnaturelle, c'est une action surnaturelle, pour que dans le naturel, on le voit dans Pierre, l'évangile puisse être annoncé en l'occurrence. Pour que l'assurance soit là, il y ait de l'assurance en l'occurrence. Pour qu'on ait de la répartie, qu'on puisse savoir comment répondre. Il y a quelque chose de surnaturel qui va s'exprimer dans le naturel. Et on devrait toujours rechercher l'aide du Saint-Esprit pour ces raisons-là. Et on voit que le Saint-Esprit nous permet d'avoir confiance en Dieu, de recevoir amour et joie, d'avoir grandir dans notre caractère, triompher du péché, être des témoins courageux, accomplir l'appel de Jésus, servir de manière surnaturelle. Tout ça, quand on entend ça, on a l'impression d'entendre de la publicité pour un produit miracle. Hein. Mais c'est bien de miracle qu'il s'agit. Et si dans la liste tout d'un coup vous dites oh, il y a un point où je suis insuffisant ces temps, je manque de confiance, je manque d'amour, je manque de joie, j'ai la peine à triompher du péché, j'ai la peine à être un témoin courageux, j'ai la peine à accomplir l'appel de Jésus ou de servir de manière surnaturelle, waouh, ben voilà, Saint-Esprit est là pour ça. Et c'est l'occasion de vivre ce que Paul dit, ben, soyez constamment à nouveau remplis de l'Esprit. Donc, et puis on devrait avoir aussi page 25, des attentes qui sont basées sur la Bible, c'est-à-dire que les attentes, qu'est-ce qu'on entend par là? Ben, c'est que le Saint-Esprit, il y a différentes manières de se manifester et on le voit dans la Bible autour de la vie de l'Esprit dans les Actes. Ben, une fois c'est avant le baptême, une fois pendant, une fois après, l'Esprit-Saint est créatif et il est créateur d'ailleurs. Voilà, il est au commencement du monde, il est à la création de l'Église, il est lors de la naissance de Jésus, il est à la Pentecôte. Il y a ce côté de créativité dans l'Esprit Saint. Et il y a un enjeu, effectivement, d'avoir des attentes basées sur la Bible. Ça veut dire, finalement, d'être assez ouvert et disponible pour accueillir l'Esprit, ce qu'il fait en moi, dans la manière où il veut le faire, mais aussi de la manière dont il fait dans la vie d'autres personnes qui peuvent être un peu différentes. Donc ça veut dire, peut-être gaffons-nous en Église aussi d'avoir pas une norme, des fois de ces normes, vous savez, qui nous enferment un petit peu, mais soyons aussi attentifs des fois à des voies de marge ou à des choses qui se passent un peu différemment. Soyons à l'écoute de ça en tout cas. Et puis, on arrive à cette fameuse page 26 qui est l'occasion de conclure sur un temps où on peut se rappeler ensemble comment vivre finalement ce temps si important qu'on disait d'être rempli toujours à nouveau du Saint-Esprit. Et il donne l'image, vous voyez, d'un ballon. Un ballon, ce qui est intéressant, l'image du ballon, ben, le ballon, ben, on le remplit d'air, d'accord? Donc le ballon, c'est nous, en l'occurrence. C'est l'idée qu'on peut être toujours plus rempli du Saint-Esprit. Et ce qui est intéressant, c'est que plus le ballon il est rempli d'air, plus sa capacité augmente aussi. Et c'est bien de ça qu'il s'agit dans cette illustration. C'est que l'air symbolise le Saint-Esprit, et plus le Saint-Esprit nous remplit, plus notre capacité aussi à être rempli de l'Esprit augmente, et plus la capacité du ballon augmente, plus on a cette capacité finalement à appliquer la parole de Dieu, plus on a une capacité dans la prière, dans l'obéissance, tout cela va aussi augmenter. Et C'est ce que le Saint-Esprit produit en nous, c'est une capacité à obéir à la parole de Dieu, à être dans une relation aussi vivante avec Jésus, à pouvoir aussi être dans cette obéissance. C'est cette parole de Romains 7, 22, connue, qui dit: « Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. » Et ça, on ne peut pas le vivre si ce n'est pas, si ce n'est par le Saint-Esprit, qui nous donne d'avoir du plaisir à accomplir la loi de Dieu. C'est pour ça que Paul, à un moment donné, il dit « Au secours, hein, d'ailleurs, à l'aide !» J'ai besoin de l'aide de Dieu, et j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit, et ça ouvre surtout Romains 8, hein, la vie de l'Esprit-Saint. Alors, pour qu'on puisse vivre comme Moody, ou avoir un témoignage à la Moody, Moody, qu'est-ce qu'il a vécu? Un jour, au centre de... On est où déjà? À Mie, ici? J'ai envie de dire, un jour au centre de Mie, oh, quelle journée, je ne peux pas le décrire, je n'en parle que rarement. C'était une expérience qui était presque trop sainte pour en parler. Nous avons eu une expérience dont nous ne pouvions pas parler pendant 14 ans. Là, ça fait combien? 15 ans que vous êtes là, je crois. Plus même. Plus combien ça fait? 25? Ouh là là, 25 ans. Ouais, ben j'espère que vous aurez encore des expériences. Oui, bien sûr, mais ouais, c'est des expériences fortes à transmettre. Mais j'espère avant 25 ans ou avant 14 ans. Je ne peux dire que j'ai rencontré Dieu et que j'ai expérimenté son amour de manière tellement intense que j'ai dû lui demander d'arrêter. Ça, je trouve génial. Je souhaite à tout le monde de vivre ça une fois. J'ai demandé à Dieu d'arrêter tellement la révélation de son amour était puissante. Waouh! Seigneur. Suite à cela, quand j'ai prêché à nouveau, mes messages n'étaient pas différents. Je n'ai pas présenté de nouvelles vérités. Pourtant, des centaines de personnes se sont converties. Je ne voudrais revenir en arrière où j'étais avant cette expérience bénie pour rien au monde. Alors, quand on lit ça, on se dit, ouais, moi aussi. Qui a envie de dire, moi aussi, j'ai envie. Moi aussi. Ouais, c'est ça. Et bien sûr, comme on disait, au niveau des attentes, attendons-nous au Saint-Esprit dans la diversité qu'il aura des expressions. Pour Moody, c'était comme ça. Dans son cœur, ça s'est passé comme ça, mais aussi dans la manifestation concrète que ça a eu dans son service, que Dieu a dans son ministère. Voilà. Et on a tous un ministère, hein. Mais pour nous, justement, ayons des attentes aussi d'être remplis du Saint-Esprit, comme l'Esprit Saint le veut, et pour ce qu'il veut aussi. Et nous donne, dans ce point 5 de la colonne de droite, il nous donne des pistes sur comment être rempli du Saint-Esprit. Et puis, je les mets ici. Ça commence par examiner son cœur, se repentir, se tourner vers la vie, consacrer sa vie à Dieu, ensuite confesser notre dépendance de Dieu, demander le Saint-Esprit par la foi, et puis recevoir aussi par la foi. C'est vrai que pour Moody, ça s'est manifesté de manière très tangible, hein, un peu à la disciple sur le chemin d'Emmaüs, hein, après les Écritures, la communion, puis après, n'y avait-il pas un feu qui brûlait en nous, hein? Je pense que c'est légitime de s'attendre à vraiment expérimenter quelque chose au niveau du cœur qui touche aussi nos émotions, notre volonté. Cependant, recevoir par la foi est quand même, ce dernier point est quand même vital parce que finalement, on demande par la foi, on reçoit par la foi. Et il y a aussi des fois des temps de Dieu, on l'a entendu aussi, des fois les enjeux qu'il y a au niveau de la prière, dans l'histoire de Daniel, c'était le cas, hein, où les choses, des fois, n'arrivent pas comme ça tout de suite. Voilà. Alors, être rempli du Saint-Esprit, c'est une œuvre de Dieu, mais à nouveau, il y a une collaboration humano-divine où vous avez votre responsabilité, vous avez votre part. Et finalement, pour ouvrir à ce que le Saint-Esprit veut faire en nous, nous remplir. Et cette part, eh ben, c'est actionner cette prière qui suit un peu ce parcours qui est proposé ici, d'examiner son cœur et se détourner tout péché dont nous sommes conscients, et puis de confier notre vie entière à Dieu comme un sacrifice vivant, l'importance de cette consécration, de cette mise à part, de cette sanctification pour le service que Dieu veut nous confier. Et puis aussi de confesser notre besoin de Dieu et notre dépendance de lui. Cette dépendance de Dieu, souvent, elle surgit quand on réalise la loi, ce que Dieu, quand on lit la parole, ce qu'on est appelé à devenir. Souvent, c'est là qu'on réalise qu'on a besoin de Dieu, en se disant, mais Seigneur, au secours. Oui, au secours, parce que là, j'y suis pas. Et moi, c'est ce qui m'avait mis, je vous ai expliqué, dans une détresse à mes 20 ans, parce que je réalisais que je n'y étais pas du tout. Ma soif de Dieu, elle est venue de là. C'est que pendant 10 ans, je me suis battu. Et puis, à mes propres forces, je n'y arrivais pas. Et puis, il me manquait une personne dans l'équation, c'était le Saint-Esprit. Et c'est ça qui m'a mis en soif, en dépendance, en soif de chercher Dieu. D'abord en soif, mais après me dire, mais pour cette soif, pour plus être un assoiffé, je dépends de Dieu et je le reconnais bien. Mais je le reconnais bien parce que je lisais la Bible, je lisais la parole et je comprenais bien que je n'étais pas aligné avec ce que Dieu voulait. Et pour dire que quand on dit confesser notre besoin de Dieu et notre dépendance de lui, c'est vrai que cette prise de conscience, elle se passe quand même passablement en passant du temps avec Jésus puis en lisant sa parole. C'est là qu'on finit par dire « Au secours, Saint-Esprit, viens !» Et puis, après, on demande à Dieu par la foi de nous remplir. Et on croit que Dieu répond à notre prière. Et on vit en conséquence, on vit en conséquence. On vit par la foi. On a l'assurance qu'on est cette nouvelle création et on n'a plus le même maître. Et on vit par la foi. On est des fois en bataille avec notre âme à ce niveau-là, c'est une bataille aussi. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions avant qu'on prenne la pause. En résumé, on parle de vivre libéré, c'est-à-dire pour vivre libéré, ben, il faut avoir une compréhension de vivre, qu'est-ce que ça veut dire de vivre dans ces deux sphères à la fois, naturelle et surnaturelle. Et c'est ça qui est important. Et puis, la Saint-Esprit est une clé pour vivre dans ces deux sphères à la fois. Et on peut être rempli de l'Esprit en suivant les principes, un peu le processus qui nous sont donnés dans cette page-là, qui est la partie, je dirais, la plus pratique. Si vous avez des questions par rapport au Saint-Esprit, ben c'est bien de relire la Bible, tout ce qui est dit là-dessus, mais aussi des fois de faire face à une part de, comme je disais avant, pour moi, ça a été le rationalisme et peut-être une part d'humanisme qui des fois sommeille un peu de manière discrète en nous et de faire face à ça aussi. Prier de manière précise aussi dans la conclusion, je pense que c'est aussi une clé importante. Prière de foi, prière précise. Voilà.
Oui. Alors merci Maxime.